Bonjour à tous. Richard il a fait référence à Jésus qui demandait à Pierre de nourrir les agneaux et les brebis. Puis là, il a dit que les psys, c'était les agneaux qui sont descendus. Fait que je reste avec les brebis. Puis comment est-ce qu'on appelle un brebis vieux, là? C'est-tu un mouton? Un vieux bouc? Bon, je sais pas, là, je suis peut-être un peu mal pris ce matin avec des vieux boucs qui sont rébarbatifs au changement. Des brebis qui veulent plus ou moins suivre, non? Non, hein, vous n'êtes pas comme ça. Bon, c'est bien. Moi, je suis comme ça, mais vous pas. Merci beaucoup, mon frère. OK. Donc, tantôt, j'imprimais mon message. Ça ne marchait pas à partir de mon ordinateur, fait qu'il a fallu que j'imprime à partir de mon téléphone, puis ça l'a imprimé très petit. Et en plus, j'ai oublié mes lunettes chez nous. Fait que là, vous allez rire de moi parce que j'ai les lunettes de ma femme. Bon, alors, ce matin, on poursuit dans la série sur l'Église, la famille de Dieu. On récite notre verset thème ensemble, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans la section sur comment vivre les relations en famille. Qu'est-ce que Dieu s'attend à voir entre nous, ses enfants? Puis, je vais faire une petite révision. La semaine passée, on regardait Éphésiens chapitre 1 et 2, où Paul dit, dans la version sommaire, au verset 2, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Wow! Toute ta vie, pas juste une partie, pas juste à l'église, dans le foyer, à la maison, au travail, toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Puis on a dit que dans toutes les valeurs qu'on a vues, accueil, humilité, édification, persévérance, unité, collaboration, toutes ces choses-là, qui est le modèle? C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu notre modèle. Puis il nous appelle à le suivre, à suivre son exemple. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ensuite, on a vu que un des aspects que l'amour peut diriger dans nos vies, c'est la langue, nos paroles. Quand on parle que l'amour doit diriger toute ma vie, ça touche à quoi? Bien, ça touche à nos sujets de conversation, parce que dans les versets qui suivent, dans Éphésiens 5, Paul il dit l'immoralité, les choses grossières, tout ça, que ces choses-là ne soient même pas mentionnées parmi vous. Il parle de nos sujets de conversation, mais plutôt des actions de grâce. Voilà, voilà. Donc, on a vu trois choses. On a vu que les paroles sont puissantes. Hein? Dieu nous a créé son image. Dieu, quand il parle, sa parole est toute puissante. Nous, quand on parle, on n'a pas des paroles toutes puissantes, mais nos paroles sont puissantes. Elles peuvent blesser, elles peuvent guérir. Elles peuvent donner la vie ou la mort, nos paroles. Donc, nos paroles sont puissantes. On a vu aussi que nos paroles démontrent si mon cœur est égocentrique ou christocentrique. Hein? On revient souvent là-dessus là, dans les dernières semaines. C'est un point tellement important. Quand on a parlé d'unité et de collaboration dans l'Église, là, comme valeur que Dieu veut voir entre nous, c'était quoi le premier obstacle à ça? La vie égocentrique. C'est le premier obstacle à ce qu'on vive l'unité et la collaboration. Donc, c'est une expression qui revient souvent là. Et finalement, est-ce que l'amour dirige les conversations avec les frères et sœurs dans la famille de Dieu? Est-ce que, comme Paul dit, je cherche à répondre à un besoin? Il dit que vos paroles répondent à un besoin. qu'elles servent à l'édification, à bâtir. Donc, on a vu tout ça la semaine passée. Et ce matin, on va poursuivre dans le même thème, comment vivre les relations dans la famille de Dieu, en laissant nos vies être dirigées par l'amour. Comment l'amour doit-il changer la nature de mes interactions avec les autres membres de la famille de Dieu? Fait que je vous invite à lire avec moi dans Galates 6, 1 et 2, l'épître de Paul aux Galates. Il dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel ou conduit par l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Ou dans la version sommaire, c'est « Aidez les autres à porter leurs fardeaux. » La phrase sommaire ce matin, c'est ça. « Aimer les autres comme Christ m'a aimé » se traduit par un engagement à aider mes frères et sœurs à porter leur fardeau. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le fait qu'on puisse être réunis encore ce matin ensemble en ta présence. Seigneur, on veut chercher ta face. Tourne vers nous ta face, Seigneur, et accorde-nous ta grâce ce matin. Encore une fois, Seigneur, on a soif de toi. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, sagesse et révélation pour te connaître. Transforme-nous par la puissance de ta parole et de ton esprit, qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement, qu'on puisse recevoir ta bonne parole, comme on vient de chanter, ta parole est comme un souffle, comme une semence, comme une épée aussi qui expose, qui révèle les choses telles qu'elles sont, pour ensuite guérir et restaurer. Seigneur, on repousse en ton nom toute autre voix que la tienne et on t'invite maintenant à nous parler par ta parole et la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va voir trois choses ce matin. On vient de lire « Porter ou aider les autres à porter leur fardeau et vous accomplirez ensuite ainsi la loi du Christ. » Donc, on va voir c'est quoi un fardeau, c'est quoi la loi du Christ et comment puis-je aider les autres à porter leur fardeau, d'accord? Alors, le premier point, c'est quoi un fardeau? C'est intéressant parce que le mot fardeau revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais ça a différents sens selon le contexte. Et si on ne connaît pas le sens, on pourrait facilement se perdre ou être confus, parce que certains passages vont dire, ben, laisse tes fardeaux, décharge-toi. Et d'autres, c'est pas pareil. Comme ce matin, on voit aider les uns les autres à porter leur fardeau. OK, bon. C'est quoi un fardeau? Il y a trois mots grecs qui sont traduits fardeau dans le Nouveau Testament. Et ma source ici, c'est le dictionnaire des mots bibliques de Stephen D. Wren, traduction Gilles Dépin. Donc, le premier mot, c'est « forcion », qui désigne une obligation sous la loi. Par exemple, dans Matthieu 11, 30, où Christ promet un fardeau léger à ceux qui le suivront, on va revenir là-dessus, mais il condamne les chefs religieux de son époque d'avoir mis des fardeaux pesants sur les dos du peuple, dans Matthieu 23, 4. Ici, on parle d'un fardeau, d'une obligation morale face aux exigences de la loi. C'est dans ce sens-là. Dans Galates 6, 5, il est question de la charge que chacun portera. Dans le même chapitre, au verset 5, chacun aura à répondre pour lui-même de ses actions, ou chacun portera son propre fardeau. Donc, voyez comment ça peut être mêlant, là, si tu ne connais pas le vrai terme. Parce que là, d'un côté, il dit, bien, aider les autres à porter leur fardeau, puis ici, chacun va porter son propre fardeau. C'est parce que c'est deux mots différents dans le grec. OK? Alors, ensuite, il y a angos. Angos, c'est un poids lourd qui fait courber, qui empêche d'avancer. Ça, c'est comme dans Hébreux 12:1. Déchargez-vous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement et courez avec persévérance hein, dans la carrière qui nous est ouverte. Vous vous rappelez de ce verset-là? Hein? Là, c'est quelque chose de négatif. Là. C'est vraiment un empêchement. C'est comme un lourd fardeau que tu n'as pas besoin, que tu traînes. Et Paul dit, débarrasse-toi de ça et cours avec et le péché. Donc, tu vois, il y a comme une connotation négative, là, une association avec le péché. Tout ce qui t'empêche de courir avec persévérance vers le but, bien, laisse ça de côté. Ça, ce n'est pas nécessaire. OK? Ça, c'est angos. OK? Ça, c'est le mot angos. Et finalement, il y a baros ici, qui est traduit de différentes façons selon le contexte. Donc, on parle de fatigue du jour dans Matthieu 12. On parle de charge ou responsabilité morale dans Actes 15, 28. D'un poids éternel de gloire, le poids, 2 Corinthiens 4, 17, ou d'une autorité, faire peser son autorité, tu sais, imposer. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 2, 6. Donc, il y a plusieurs différentes façons de traduire ce mot-là. C'est un terme général qui est traduit différemment selon le contexte. Et c'est ce mot-là qu'on retrouve dans notre texte ce matin, dans Galates 6, 2. Ça veut dire quoi, fardeau, dans ce contexte-là? Bien, Paul est dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux et vous accomplirez la loi du Christ. Donc, c'est quelque chose de positif à faire. Aider les autres à porter, ou même porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi du Christ. Donc, le fardeau ici peut prendre la forme de plusieurs différentes choses. Hein? Est-ce qu'un fardeau pourrait être une infirmité ou une maladie physique? Bien oui, comme Paul, hein, qui avait une écharpe dans la chair, une infirmité. Dans le même livre, Paul, il parle aux Galatiens et il dit au chapitre 4 que quand il est arrivé en Galatie, il a été reçu comme un ange de Dieu. Et là, il dit, vous auriez pu être répugné, repoussé par mon infirmité. Mais non, vous m'avez accueilli, puis même, il dit, vous auriez voulu, si c'était possible, arracher vos propres yeux pour me les donner. Fait que c'est pourquoi on pense peut-être que la charde que Paul avait dans la chair, l'infirmité, avait rapport avec ses yeux, peut-être. Parce que il dit ça aux Galatiens. Il n'avait pas été repoussé ou méprisé par eux à cause de son infirmité, mais les Galates l'avaient accueilli comme s'il était un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne, il dit. Wow! C'est ça qu'il dit, là, dans Galates 4, 14, 15. Et on voit, c'est pas un jeu de mots, là, on voit que leur attitude était vraiment, avait vraiment touché l'apôtre, qu'il devait composer avec cette infirmité. Hein? Leur attitude avait sûrement allégé son fardeau, non? Est-ce que tu connais quelqu'un avec une infirmité physique? Une maladie chronique ou un handicap, peut-être? Et puis, sur le coup, peut-être ça te repousse. Hein? C'est normal, c'est notre nature humaine, là. C'est normal. Sur le coup, oh. Mais comment aider à porter le fardeau de cette personne-là? As-tu pensé que cette personne-là, qui doit composer avec ce fardeau-là, jour après jour, comment ça peut être lourd? Hein? Comment ça peut être lourd? Dieu nous donne l'occasion de laisser son amour diriger notre vie en aidant à porter ce fardeau-là, en aidant à soulager le fardeau que la personne a apporté, que ce soit une infirmité physique ou encore d'autres choses. J'aime pas me prendre en exemple, mais je vous donne cet exemple-là parce que ça me rappelle, il y a plusieurs années, on avait une sœur handicapée ici, à qui il se rappelle Carole Ouellette. Hein, la petite Carole, qui était en fauteuil roulant, était née avec des petites jambes courtes qui fonctionnaient pas du tout, là. Puis, on allait la chercher tous les dimanches, Lorraine et moi, pour l'amener à l'assemblée. Puis, il fallait que je la prenne dans mes bras pour la mettre dans l'auto. Et c'était une joie pour moi. C'était une joie pour moi. Puis, à un moment donné, j'ai dit, Carole, t'es chanceuse, là. Elle dit, comment ça? J'ai dit, toi, tu sais comment déjà là, que tu vas te sentir à l'enlèvement. T'as un avantage. Alors, encore, un fardeau peut prendre la forme d'un état émotionnel ou psychologique. Rappelons la scène de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus fait face à une trahison d'un proche. As-tu déjà été trahi par un proche? Ça fait mal. Il fait face à l'abus verbal et physique. As-tu déjà fait l'objet d'abus verbal et physique? Ça fait mal. Il fait face à un procès totalement injuste. As-tu déjà fait face à l'injustice? C'est pas facile, hein? Il fait face au rejet du peuple pour lequel il s'est tant dévoué. Il fait face à la peine capitale sous la forme la plus horrible, la crucifixion. Et par-dessus tout ça, au summum de la souffrance qui va arriver, il fait face au jugement juste d'un Dieu en colère contre tes péchés et les miens. C'est un lourd fardeau, ça. Il est devant tout ça dans le jardin, là. Il est devant tout ça, là. Juste une de ces choses-là, c'est un coup dur pour nous. C'est un coup dur. Et ça nous enverrait peut-être vers la dépression, pas vrai? Mais lui, il est face à tout ça. Il est dans un état de tristesse profonde et d'angoisse aiguë terrible. Et il demande à ses disciples de veiller, de prier avec lui, de, en quelque sorte, l'aider à porter ce fardeau un peu, humainement parlant. Il leur demande de le soutenir, de l'aider à porter ce lourd fardeau. Il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Dans la sommeur, c'est « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Pensez pas que le Seigneur pouvait expérimenter ces émotions-là? Oui. Oui, puisqu'il est pleinement, il était pleinement humain. C'est là qu'on voit que d'être triste à la mort, ce n'est pas un péché. Ou de vivre une angoisse, ce n'est pas nécessairement un péché. « Restez ici, veillez avec moi, » dit-il. Et ses disciples s'endorment. Luc nous dit qu'un ange est venu du ciel, Luc 22, 43, « Un ange venu du ciel apparut et le fortifia. » Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est beau, ça, hein? C'est beau, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, là, que Dieu le Père, là, même si Jésus, il fallait qu'il passe par là, même si Jésus a dit, « Père, enlève de moi cette coupe si possible. » Et que le Père était obligé de dire non. Même si ça, c'est vrai, là, Dieu était touché par la souffrance de son fils. Il envoie un ange pour le fortifier. C'est merveilleux, hein? Ses disciples sont là, pas d'aide, s'endorment. Alors Dieu envoie un ange. On voit le cœur de Dieu ici, le cœur de Dieu pour son fils. Dieu, c'est comme, il dit, moi, je vais t'aider, mon fils, à porter le fardeau. Lorsque des situations familiales difficiles nous atteignent, un conflit, des relations tendues ou brisées, la perte d'un être cher ou d'un emploi, toutes ces choses-là peuvent nous faire vivre la tristesse, l'anxiété, un fardeau émotionnel. On a besoin de support. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider à porter ce fardeau. Et ça, c'est une preuve d'amour. Que l'amour dirige toute votre vie jusqu'au point d'aider ton frère, ta sœur à porter un fardeau. Et encore, un fardeau peut être une charge de nature spirituelle. Paul dit, dans 2 Corinthiens, il dit, « J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à de jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » 2 Corinthiens 11. L'expression « je suis assiégé et rendu », je porte le fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Wow! Ce n'est pas une infirmité physique. Ce n'est pas un état émotionnel. C'est une charge spirituelle. Une charge spirituelle. Il a soin parce qu'il veut prendre soin de l'Église de Jésus-Christ. Ça lui amène une charge, des préoccupations, des soucis. Et puis, il y avait des gens qui l'aidaient à porter ce fardeau. Hein? On pense à Silas, on pense à Barnabas, on pense à Tite, Épaphras, Épaphrodite, Démas, etc., Timothée. Tous ces gens-là, Dieu les a envoyés pour aider Paul à porter ce fardeau spirituel. Donc, est-ce que tu connais quelqu'un dans l'Église dont tu pourrais offrir une aide à porter le fardeau, que ce soit physique ou émotionnel ou spirituel? Et si tu fais ça, bien, Paul dit dans Galates 6:2, il dit, « Tu vas accomplir la loi du Christ. » C'est quoi ça, la loi du Christ? Bon, on va essayer de découvrir c'est quoi. C'est quoi la loi du Christ? Bien, Jésus dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Bon, est-ce qu'il fait référence à ça? Bien, je n'ai pas vu d'autres commandements. Il y a eu la commission, aller faire des disciples, mais c'est le seul commandement que Jésus donne, le seul. C'est le seul qui est traité comme ça, qui est un commandement. Mais pourquoi il dit un commandement nouveau? Est-ce que pour les Juifs, c'était un commandement nouveau d'aimer leur prochain? Non. Non, les 10 commandements disent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi il dit « C'est un commandement nouveau » ? Est-ce que c'est l'action à poser, aimer versus haïr ou rester indifférent? Non. Est-ce que c'est dans l'objet de l'amour, le prochain? Non. Alors, si ce n'est pas en rapport avec l'action ou l'objet, qu'est-ce qui est nouveau? C'est dans la nature de l'action à poser, comme moi je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, c'est « aime ton prochain comme toi-même. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Ah, c'est nouveau? Ah, c'est quoi qui est nouveau? Comme je vous ai aimé. Ah, ben c'est... Souvent, on mêle les deux, là. C'est pas que le premier est mauvais. Ça tient toujours. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est tellement radical comme je vous ai aimé que Jésus dit c'est nouveau. Wow! La comparaison est avec l'amour dont il nous a aimés. Alors, la loi de Christ, c'est ça. C'est son commandement. Aimer les autres comme il t'a aimé. Et Paul nous dit ici que si tu aides les gens autour de toi à porter leur fardeau, tu accomplis ce commandement, cette loi-là. L'apôtre Jean nous dit, voici comment nous savons ce qu'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi, nous aussi, donner notre vie pour les frères. Donc, il y a comme une nouvelle définition de l'amour. L'amour, c'est ce que Jésus a fait, c'est ça. Il s'est donné pour nous, pour notre vie, notre bien, à un point où ce que ça lui a coûté sa vie. Voici comment nous savons c'est quoi d'aimer. Nous apprenons c'est quoi l'amour quand nous contemplons l'action du Christ. Tournez avec moi dans 1 Jean 2. On va lire quelques versets dans 1 Jean 2. Chapitre 2, verset 17. Merci. Si quelqu'un possède les biens du monde, un riche, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, nous lui demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Il fait référence à ce que Jésus a dit, hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est ici son commandement, nous dit Jean, que nous croyons au nom du Fils Jésus-Christ, de son Fils, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors, accomplir la loi, le commandement du Christ, signifie aimer les autres comme il t'a aimé. Tu sais, comme dans le livre qu'on étudie, que plusieurs d'entre vous ont acheté puis ont lu, il y a une différence entre notre théologie théorique et notre théologie réelle. On peut être convaincus tous de certaines croyances par rapport à Dieu. Ça, c'est notre théologie théorique. Les connaissances, les croyances sur Dieu. Ça, c'est la théologie. C'est important d'avoir une bonne théologie. Mais ta vraie théologie, là, c'est pas ce que tu crois savoir sur Dieu, mais ce que tu appliques dans ta vie. Ce que ta vie démontre, tes actions démontre ce que tu crois vraiment. Ça, c'est ta vraie théologie. Fait que tu peux croire que Dieu t'a aimé, que Jésus t'a donné sa vie pour toi. Tu peux croire que le vrai amour, c'est d'aimer les autres, apporter leur fardeau. Mais est-ce que ta théologie, elle se rend vraiment jusqu'à, en pratique, à agir? Sinon, ce sont des connaissances stériles. Et des connaissances stériles, la Bible dit que ça ne produit rien de bon. Les connaissances stériles, qu'est-ce que ça produit? Ça produit l'orgueil et ça produit des conflits. Ah, c'est ça, il n'y a plus de pile. Ouais, mais la lumière est rouge. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8, 1, la connaissance en... Donc, Paul nous dit, la connaissance ange, mais l'amour édifie. L'amour, dans la version sommaire, cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Et si on revient dans notre passage de 1 Jean 3, Jean poursuit au verset 18, il dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'elles se traduisent par des actes accomplis dans la vérité, sincèrement, sans hypocrisie. Paul Tripp et Tim Lane, dans le livre « Nos relations, des bénédictions compliquées », relèvent la transformation extrême qui s'est produite dans la vie de Jean. C'est Jean qui nous écrit ici, le disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit « N'aimons pas en parole, mais en vérité. » Appliquez ce que vous connaissez sur l'amour, le commandement que vous avez reçu de Jésus. Appliquez-le. C'est Jean qui nous dit ça. Mais c'est qui ce Jean-là? Bien, il nous ramène les auteurs dans le livre, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Vous vous rappelez que à un certain moment donné, dans le ministère de Jésus-Christ, Jean et Jacques, son frère, s'approchent de Jésus au courant de son ministère et lui demandent, « Maître, on aurait une petite requête. » Pas compliqué. Hein? « Ah, OK, oui, Jean, Jacques, qu'est-ce que vous vouliez? On voudrait, là, quand tu viens dans ton règne, que tu t'assoies sur le trône d'Israël, là, pour prendre contrôle, on voudrait être assis un à ta gauche, puis un à ta droite. Puis ça ne nous dérange pas, là, que ce soit lui à gauche ou moi à droite. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est ma version à moi. C'est pas écrit, ça. Puis, qu'est-ce que c'est dit dans l'Évangile? C'est que quand les autres ont entendu ça, c'était le party, hein? Non, c'est ça. C'est quoi que ça a produit? Ça a produit la chicane. Il n'était pas content. Pourquoi? Bien, pourquoi Jean, il serait assis, puis pas moi, Jacques, puis pas moi? C'est quoi qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il recherchait, Jean et Jacques? Ah, bien, il recherchait à être proche de Jésus, c'est bon, ça? Non, non, non. Il recherchait la gloire. Leur connaissance les poussait à être orgueilleux. Et regardez la transformation extrême qu'ici, maintenant, on voit chez Jean. On voit un homme humble, on voit un homme rempli d'amour, on voit un homme qui marche dans la lumière, qui met les autres en avant de lui. Dans le passage, dans Marc 10, je vais vous lire qu'est-ce que Jésus dit, là, quand il apprend ça, que la controverse est semée parmi ses disciples. C'est qui va être le plus grand, finalement? Jésus les appela tous auprès de lui, dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. » Intéressant, hein? Peser leur autorité. Fardeau. Wow! Mais il dit, il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave ou l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, encore, c'est toujours lui la référence. C'est toujours lui l'exemple. C'est toujours lui qui ouvre le chemin, qui nous montre c'est quoi. Le Fils de l'homme, Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme, hein, quelqu'un m'a posé la question il y a une semaine ou deux, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Daniel. C'est la première fois que c'est marqué Fils de l'homme. Et c'est en rapport avec le roi des rois qui arrive pour régner pour l'éternité. Il est appelé le Fils, quelqu'un qui ressemble à le Fils de l'homme. Et quand Jésus était devant le Sanhédrin, ils ont dit, « Dis-nous-le franchement, là, t'es-tu le Messie ou non? » Il dit, « C'est vous qui le dites. » Et je vous dis, « Vous allez voir le Fils de l'homme arriver sur les nuées. Hein? » Et ils ont dit, « Blasphème! » Parce que Jésus s'identifiait comme ça. « Je suis le Fils de l'homme. » En passant, ça veut simplement dire « humain ». Mais il dit, je suis l'humain. Je suis celui qui, l'humain qui vient des cieux pour régner éternellement. OK? Comment ça se fait un humain qui vient des cieux? Parce que c'est un humain qui est né, mort, ressuscité, ascension et qui revient. C'est comme ça. Alors, le Fils de l'homme, ça fait référence à son autorité. Ça fait référence qu'il est le roi des rois qui s'en vient pour régner pour l'éternité. Mais il dit, je ne suis pas venu pour faire peser mon autorité sur vous, là. Je suis venu pour donner ma vie. Wow! Et c'est ça le leadership, l'exemple du leadership que Christ nous donne. C'est un exemple d'un leadership qui sert, qui donne sa vie, qui ne cherche pas à se faire servir. Jésus leur avait servi un enseignement solide ce jour-là, pas d'accord? Une bonne portion de la tarte aux pommes d'humilité. C'est ce même Jean qui nous enseigne à son tour d'aimer non en parole, mais en action et avec sincérité. C'est parce qu'il avait appris de Jésus la loi de l'amour, le commandement nouveau. Ce même Jean avait vu Jésus constamment en train de prendre soin des autres, au point de s'oublier lui-même. Porter leur fardeau de souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Il a vu Jésus appliquer cette loi jusqu'à la fin sans broncher. Oui, il a vu de ses yeux son maître pendu par les mains et les pieds à la croix, en train de s'offrir comme un sacrifice pour les péchés, ses péchés à lui. Et il a vu et entendu son maître pendant que les clous déchiraient sa peau, ses muscles et ses tendons. Lui confier sa mère, Marie, et lui demander de prendre soin d'elle puisqu'il ne serait plus là pour le faire. Jean a été complètement transformé par le Christ Jésus. Et toi? Donc, on a vu la transformation de Jean. L'enseignement de Jésus, pas juste en parole, mais par sa vie. On a vu c'est quoi un fardeau? On a vu c'est quoi la loi du Christ. Et maintenant, pour terminer, comment puis-je aider les autres à porter leur fardeau? La première chose que je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre. C'est que premièrement, il faut que tu expérimentes toi-même que Jésus est là pour prendre soin de toi. Si tu n'expérimentes pas ça, tu ne seras pas en mesure d'offrir le même type d'amour aux autres. Que tu expérimentes toi-même que Jésus est là pour prendre soin de toi, qu'il veut porter tes fardeaux, en fait, qu'il veut te porter toi. On a rappelé souvent ce verset dans les derniers mois, Matthieu 11, 28, mais je ne puis faire autrement que vous de le rappeler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans la version sommaire, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ici, le mot fardeau, comme on a vu au début, il est question des obligations morales et spirituelles qu'impose la religion. Le fardeau de performer, d'être à la hauteur, le fardeau que les leaders religieux mettaient sur le dos du peuple, le fardeau de s'épuiser à essayer de gagner la faveur de Dieu, à être assez bon pour que Dieu t'accepte. Jésus dit, si tu t'écroules sous ce fardeau-là, viens à moi. Viens à moi. Parce que moi, j'ai tout fait pour satisfaire l'exigence de Dieu. Jésus a pris sur lui toutes les exigences de Dieu à ton égard. Je répète, Jésus a pris sur lui toutes les exigences de Dieu à ton égard, à la croix, que tu ne pouvais pas supporter. Et il a payé le prix que tu devais parce que tu avais manqué à ça. Il a pris la condamnation. Il a pris le jugement. Il a pris le rejet. Il a pris tout ça. Et c'est pourquoi maintenant il dit, je peux t'offrir le repos. Parce que si tu viens à moi, si tu t'unis à moi, tu es accueilli à bras ouverts. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. C'est un repos, là. C'est un repos. C'est incroyable. Nous sommes dans la période de l'année où nous célébrons la venue du Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Voici ce qu'il est dit du Messie qui viendrait dans la prophétie d'Ésaïe. En Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. En parlant du Messie qui viendrait, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances et ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. En parlant de son peuple Israël, Dieu dit dans Osée 11, 3 et 4, « Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm. » Éphraïm, ça fait référence à Israël, le nord de l'Israël, « et qui l'ai porté dans mes bras. » Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. Wow! Wow! Avez-vous capté ce que Dieu dit là? C'est que lui, là, dans son cœur, là, il veut prendre soin de toi. Il veut te porter dans ses bras. Mais toi, tu peux refuser, là, pour toutes sortes de raisons. Je suis capable moi-même. Je n'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver. Ou je ne mérite pas ça, que Dieu me prenne soin de moi. Non, jamais personne n'a pris soin de moi, fait que moi j'ai appris à me prendre soin de moi. Que Dieu veut prendre soin de moi, bien je le crois là, c'est la théologie. Oui, je le comprends. Mais dans ma vie, je démontre que ce n'est pas vrai dans mon cœur, que je laisse Dieu prendre soin de moi. Mais sais-tu quoi? Si tu ne laisses pas Dieu prendre soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Impossible. Impossible. Dieu dit ici, je le portais, c'était là, moi qui étais là pour ses premiers pas, qu'il a porté dans mes bras, ou une autre version dit qu'il a soutenu par ses bras, là, tu sais, comme un enfant qui apprend à marcher, là, tu le soutiens pour qu'il apprenne à marcher. Dieu veut faire ça. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. Dieu continue, il dit, c'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. As-tu vu l'image? C'est incroyable. Ça dépend comment c'est traduit. C'est traduit de différentes façons. Des fois, l'hébreu n'est pas facile. Les traducteurs ont un peu de misère à saisir le sens d'un mot, d'une expression. Okay? Fait qu'il y a deux façons que ça a été traduit, ça. Là, c'en est un. L'autre, c'est que j'ouvrais, j'enlevais le mort de sa bouche pour lui tendre à manger. Comme un cheval, tu sais, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup sué, puis là, tu enlèves le mort, puis tu lui donnes à manger. Ça, c'est une image. L'autre image, c'est comme c'est traduit ici, c'est d'avoir un bébé dans les bras, puis tu lui proche de toi, puis tu lui tends à manger. Peu importe l'image, l'idée est pareille, là. C'est que Dieu prend soin, Dieu veut nourrir tendrement. Pardon? La référence, c'est dans Osée 11, 3 et 4. Ouais. On revient à Jésus, la prophétie sur Jésus dans Ésaïe 40. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, comme on a vu avec Richard ce matin. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. C'est Jésus qui est en perspective. Te laisses-tu prendre soin de par Jésus? Est-ce que tu te laisses prendre soin de par Dieu? Est-ce que tu crois qu'il veut prendre soin de toi réellement? Si tu fais comme Israël et tu ne laisses pas Dieu te porter, il te sera impossible d'aider les autres à porter leur fardeau. Ça, c'est le premier point. Comment puis-je aider les autres à porter leur fardeau? Il faut que j'expérimente premièrement que Dieu veut prendre soin de moi, que Dieu veut porter mon fardeau. On a vu l'exemple avec Dieu le Père et Jésus dans le Gethsémané. Hein? Dieu envoie un ange pour le fortifier. Deuxièmement, bien, demande à Dieu de te donner son amour, sa compassion. Demande, quand la parole de Dieu là, nous dit quelque chose, OK? Il y a comme deux chemins qu'on peut prendre après ça. Ah, OK, j'ai compris, Seigneur. J'y vais. Je vais le faire. Là, tu es dans la chair. Là, tu es dans ton ancienne nature humaine. Tu vas avoir de la difficulté. Tu vas trébucher. Tu vas te faire mal. Puis tu vas faire mal aux autres. L'autre voie, c'est que de dire, OK, Seigneur, j'ai compris. Parfait. Je veux obéir. Mon désir, c'est d'obéir. Donne-moi le désir et donne-moi la capacité de le faire par ton esprit. C'est subtil, là. Parce que dans l'autre voie, là, tu dis, OK, j'ai compris. L'autre, il dit, oui aussi, j'ai compris. J'ai compris. Je fais ça. Seigneur, aide-moi à faire ça, là. C'est pas facile, là. Regarde, porter son fardeau, là, ça m'énerve. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide, là. Mais c'est toujours toi qui es au centre. C'est subtil, hein? C'est subtil, hein? Dans l'autre cas, tu dis, Seigneur, oui, j'ai compris, je veux, mais j'ai vraiment besoin que tu me donnes d'abord le désir de le faire, que ça vienne de toi, et la force, ça ne peut pas venir de moi, là. Je ne dis pas, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-le en moi. Voyez-vous la différence? C'est toute la différence dans le monde. Puis d'un côté, si tu essaies de faire ça par tes propres forces, comme je dis, tu vas t'épuiser, tu vas te blesser, tu vas blesser les autres. Excuse ma soeur, tu voulais dire quelque chose, Chantal? Qu'est-ce que tu voulais dire? Aide-moi. Ouais. C'est ça. C'est exactement. C'est ça, exactement. Dans 2 Corinthiens 8, 16, Paul y dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous que moi j'ai. » Et il reconnaît que c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Mais Dieu, il n'agira pas contre ta volonté. Il faut que tu veuilles aussi, là. C'est toujours ta volonté avec la volonté de Dieu, là. Puis Dieu, il ne force pas. Mais il veut. Il te le dit. Mais c'est de dire, « OK, Seigneur, je veux, mais je ne veux pas tant que ça, finalement. Tu sais, viens me donner le désir, là. » Puis la force, hein, car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire, nous dit Paul, selon son bon plaisir. Amen. Fait qu'on est dépendant de Dieu, là. On est dépendant de Dieu. Bon, comment je peux aider les autres à porter leur fardeau? Troisièmement, bien, saisis les opportunités que Dieu met devant toi. Écoute les gens. Prends le temps de les écouter. Pose-leur des questions sur ce qu'ils vivent. Si on fait tous juste ça, là, ça va faire une énorme différence. Si tout le monde fait juste ça, là, déjà là, ça va faire une énorme différence. Écoute, pose des questions. Sans tenter de les corriger ou d'apporter des solutions à leurs problèmes. Nous, les hommes, on est experts là-dedans. Quand les premières années de notre mariage, là, quand Lorraine, elle se plaignait de quelque chose, bien là, moi, j'étais en mode solution. Parce que les hommes, on est comme ça. On voit un problème, c'est ça la solution. On analyse. Là, je disais la solution, puis là, elle se fâchait. Ben quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de t'aider. Hein? Pas vrai, les gars? Hein? Ben oui. Un gars, il dirait merci. Hey, c'est une bonne idée, ça, je vais faire ça. La femme, elle se met en colère. Pourquoi? Tu ne m'as pas écouté. Ben oui, je t'ai écouté. Garde, je t'offre une solution. Non, tu ne m'as pas écouté. Ah, il y en a qui vivent ça, hein? OK, pourquoi? Parce que la femme, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être entendue, comprise. Juste ça. Tu n'as pas besoin d'y apporter une solution, peut-être. Pas tout de suite, en tout cas.
C'est pas la première chose à apporter.
Exactement. Exactement. Fait que ça, c'est les femmes, on a à apprendre, les gars, on a à apprendre des femmes là-dedans. Quand quelqu'un te parle, là, sois pas en mode solution, là. Puis quand tu réalises ça, là, tu le vois, là. Tu parles à un ami, tu dis qu'est-ce que tu vis, là, il t'amène une solution. Non, c'est pas ça, là. Je te dis juste ce que je vis, là, puis... J'aimerais ça que tu m'écoutes, que tu comprennes ma douleur, que tu compatises avec moi. Hein? C'est ça. Juste ça, là, c'est de l'amour. Oui?
Parce que ça, là, on expérimente beaucoup ça lors de la mortalité.
Oui.
Si on a l'écoute, oui. On n'a pas la solution à leur proposer pour combler leur peine.
Oui. Oui. Ce qu'il dit, je vais répéter, dans la mortalité, c'est ça qu'on vit, que c'est plus facile à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de solution, hein? On s'entend? Fait que là, on est plus à l'écoute de leur peine. Malgré ça, là, y a des gens qui ont été blessés plus jeunes parce qu'ils avaient perdu un parent ou un frère, une sœur. Puis... les bons chrétiens, en bons chrétiens, en voulant encourager l'enfant, « Ah, pleure pas, tu vas le voir au ciel. » Ou « Pleure pas, il est encore bien mieux où ce qu'il est. » Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de l'enfant, ça? Ben moi, je ne suis pas important. Je ne valais pas la peine ou je devrais être content. Mais j'ai mal. Mais c'est normal. Que t'es mal. C'est normal, t'as perdu un être cher. Non, non, sois content parce que ton père, il est encore mieux, là. Il est au ciel, il est heureux. Ah oui, ah, il est heureux. Il est heureux sans moi. Fait que même dans la mortalité, frère, malheureusement, on peut dire des bêtises. C'est pas que c'est des faussetés. C'est vrai. Mais on n'a pas cherché à porter le fardeau de la personne devant nous On a fourni une solution. Souvent, c'est parce qu'on est mal à l'aise. On ne sait pas quoi dire. Fait que là, on dit quelque chose. Là. On pense que c'est bon, ça. On pense que ça va l'aider, là. Inquiétez-vous pas, j'ai déjà fait des choses pareilles. Oui. Écoute, pose ces questions, mais sans tenter de corriger, d'apporter des solutions toutes faites, à moins qu'il vous demande un conseil. Mais si tu peux offrir des paroles de consolation guidées par l'Esprit, ah, c'est d'autres choses. À un moment donné, tu peux être en prière tout en écoutant la personne. « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour consoler? » Peut-être que tu n'as pas besoin de rien dire. Mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose que l'Esprit va te mettre à cœur de dire. Il faut être à l'écoute de l'Esprit. À l'écoute de l'Esprit, savoir si je peux apporter une parole de consolation. Oui, des fois c'est juste ça. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, nous dit Proverbe 12, 25, mais une bonne parole le réjouit. Comment on peut aussi aider à porter les fardeaux? Priez pour les gens. Priez sur place. Priez tout de suite. Dis pas, ben, c'est correct de dire ça aussi, là. Mais souvent on dit, je vais prier pour toi. Puis là, à la maison, on oublie. Mais pourquoi ne pas prier tout de suite, là? Prie tout de suite. Et si la personne accepte, tu auras joie d'avoir pris soin de la personne. Si la personne refuse, tu n'as rien perdu, puis tu auras tout de même la joie de leur avoir offert. Amen? Informe-toi des besoins. Reste pas centré sur toi-même et les tiens. C'est souvent l'erreur qu'on fait. On est tellement focusé sur nos problèmes, nos fardeaux, qu'on est aveugle complètement aux autres. Or, j'en ai assez de mes problèmes pour commencer à m'occuper des autres. Avouez là. Avouez qu'on ne le dira pas là, mais on pense ça là. On pense tout ça là. J'en ai assez, j'en ai de reste de mes propres problèmes pour commencer à m'occuper des autres, des problèmes des autres. Ça, c'est un faux raisonnement. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est un faux raisonnement. C'est la preuve d'une vie égocentrique, d'être tournée vers toi. Par la foi, je t'encourage, mon frère, ma sœur, encourageons-nous les uns les autres à suivre l'exemple et l'enseignement du Christ. Tu verras alors que tes problèmes à toi diminueront en ampleur, diminueront en importance même, et tu récolteras ce que tu auras semé. Si tu sèmes la compassion, tu vas récolter la compassion. Si tu sèmes l'amour et le soin des autres, tu vas récolter ça aussi. C'est comme la parole de Dieu nous dit, celui qui arrose sera arrosé. On a une belle occasion cet après-midi d'aider à porter le fardeau de solitude et de tristesse d'une gang d'hommes là, qui viennent travailler ici pendant 2-3 ans de la Guatemala. Ils viennent parce qu'ils veulent subvenir aux besoins de leurs enfants, leurs épouses, mais ils sont loin de ceux qu'ils aiment. Ils sont loin. Et certains, 2-3 ans sans retourner voir leur famille, sans pouvoir voir grandir leurs enfants, sans pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras, ou serrer leurs femmes dans leurs bras, ou voir leurs parents. Ils sont dans la solitude, la tristesse. On a une belle occasion, hein, de leur témoigner un petit peu d'intérêt, un petit peu d'affection, un petit peu d'aider à porter ce fardeau de solitude et de l'éloignement, de tristesse. Profitons-en. Amen. Richard?